tout seul dans l'univers? Voici la question la plus simple du monde et les hommes se la posent depuis la nuit des temps. Les scientifiques prennent aussi très au sérieux cette interrogation en regardant l'immensité de l'univers. Avec la découverte des exoplanètes, ces planètes situées en dehors de notre système solaire, le champ des possibles s'est élargi et rien n'empêche d'imaginer que d'autres civilisations existent. Mais comment entrer en contact avec elles? Quels signaux leur envoyer? Et qu'est-ce que cela nous dit de notre condition de terrestre? C'est le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une expérience en Antarctique qui simule le réchauffement climatique.
Oui Mathieu, pour prédire l'impact du réchauffement sur les eaux, des chercheurs anglais ont eu la bonne idée, aller directement chauffer le fond des océans pour voir. On discute des résultats de cette étude avec l'océanographe Jean-Pierre Gattuso.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise notre tête au carré préparée par Chantal de Montagny avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Mais où sont les extraterrestres? Ce sera le thème de notre dossier dans un instant avec mes invités que je salue, l'astrophysicien Roland Lehoucq et l'économiste Alexandre Delegue. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Roland Lehoucq, alors? Toujours rien?
Toujours rien. Non. C'est pas que j'y cherche beaucoup. Mais
vous n'avez pas des infos rien. Pour Jean Lebrun, là?
Oui, c'est ça.
Puisqu'il note qu'on a fait deux fois l'émission dans l'année.
Il avait l'air anxieux, peut-être d'ailleurs moi-même.
C'est
hop,
ça. C'est
moi-même.
C'est parce qu'on a un scoop, en fait.
Oui, non, on n'a pas de scoop. Mais bon, des questions, des tentatives de réponse. Et puis surtout, comme souvent, par ces questions un peu vastes et sans réponse pour l'instant, un détour pour finalement mieux revenir sur Terre ou revenir différemment sur Terre.
Alors justement, Alexandre Delegue, en quoi c'est intéressant de se poser cette question des extraterrestres?
Que ce soit dans la littérature ou en science, la question d'extraterrestres, c'est aussi une manière de se poser de la question de notre place dans l'univers, est-ce qu'on est tout seul, et de la question de notre survie dans l'univers. Et cette question, elle concerne aussi des questions économiques. Est-ce qu'on va brûler toutes nos ressources? Est-ce que notre croissance est soutenable? Tout ça, ce sont des choses qui, au travers des extraterrestres, nous permettent de nous regarder nous-mêmes.
Voilà, donc un économiste comme vous a des choses à dire sur cette question des extraterrestres.
Oui, un peu paradoxalement.
Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Vous publiez ensemble avec d'autres auteurs, où sont-ils? Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi. Aux éditions du CNRS, on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs. Mais pour le moment, la une de la science.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Prédire l'impact du réchauffement climatique sur les micro-organismes marins, des chercheurs anglais ont eu la drôle d'idée d'installer des plaques chauffantes au fond des eaux de l'Antarctique pour voir ce qu'il advient de la faune dans des eaux un peu plus chaudes. Axel Villard, on en discute de cette étude parue dans la revue Current Biology avec l'océanographe Jean-Pierre Gattuso.
Bonjour à vous Jean-Pierre Gattuso.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS. Avec nous aussi pour commenter cette expérience étonnante, Hervé Kempf pour le magazine Reporter.net. Hervé, c'est une drôle d'idée d'aller réchauffer l'océan pour étudier le réchauffement climatique, non ?
Oui, d'autant plus que... Mais en même temps, il y a une vraie question à se poser, puisque l'océan Antarctique et le continent Antarctique subissent le plus les effets du réchauffement. Et les scientifiques se posent d'autant plus la question que les écosystèmes y sont stables depuis des millions d'années, et donc on suspecte évidemment qu'un réchauffement rapide sur quelques siècles ou décennies va avoir des conséquences. Sauf que ça n'avait pas été vraiment étudié. Mmh. Et pour le savoir, les chercheurs anglo-saxons ont mené une expérience originale près de la station de recherche de Rotera, sur l'Antarctique lui-même, et ils ont disposé à 10 mètres de profondeur, près du rivage, des casiers de 10 cm sur 10, avec quelques centimètres de profondeur, et où abondaient des micro-organismes. Et ils ont fait 3 suivis sur quelques mois. Premier casier, première série de casiers à température ambiante. Deuxième série de casiers, on chauffe très précisément à plus de 1 degré centigrade. Et troisième série de casiers, 2 degrés centigrades. Et quel résultat? C'est ce que nous allons discuter.
Alors Jean-Pierre Gattuso, ces changements observés par les chercheurs pendant 9 mois, est-ce qu'ils sont vraiment significatifs avec 1 ou 2 degrés en plus?
Oui, en fait, ils ont montré, ces collègues anglais, que les organismes qui vivent au fond de l'eau, les organismes qu'on appelle benthiques, sont très différents en fait en fonction de la température, et notamment avec plus 1 degré, leur plaque de recrutement était couverte d'un bryozoaire calcaire. C'est un bryozoaire, c'est un invertébré calcaire qui a largement colonisé ces plaques. Donc on voit ici l'effet du réchauffement sur le recrutement et sur la composition des organismes qui peuvent s'établir au fond de la mer.
Est-ce qu'en 9 mois, l'écosystème a le temps d'atteindre une forme de stabilité pour être représentatif ?
Non. Non, c'est très court. Et puis aussi, il faut rappeler que c'est à petite échelle, hein, leur expérience. Je ne veux pas du tout diminuer leur mérite, hein, parce que technologiquement, c'est quand même pas simple de réchauffer comme ça des plaques de recrutement au fond de la mer, particulièrement en Antarctique, où les conditions environnementales sont très difficiles. Donc, mais oui, c'est à petite échelle. Ces plaques de recrutement font 10 cm sur 10, donc c'est petit. Et puis aussi, le réchauffement n'avait lieu que sur une hauteur d'eau de 2 mm. Donc, on voit vraiment les stades initiaux de la colonisation. Il faudrait évidemment pouvoir continuer l'expérience plus longtemps pour regarder ce qui se passe à une étape ultérieure, après 9 mois.
Donc, pour vous, c'est vraiment le protocole qui est intéressant plus que les résultats de ce travail ?
Oui, absolument. Le protocole est très intéressant. Et ce qui serait très intéressant, c'est de combiner ce protocole. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que ces expériences de réchauffement sont très fréquentes dans le domaine terrestre. Ça fait très longtemps que les collègues écologues terrestres ont fait des expériences sur le terrain de réchauffement. Mmh. Et donc, il serait intéressant de faire des expériences similaires en mettant ces plaques, disons, chauffées sur des sources de CO2. Puisque là, on pourrait voir, pour véritablement prédire ce qui peut se passer dans le futur, il faudrait pouvoir combiner les différents facteurs environnementaux qui vont changer. Donc la température, c'en est un, évidemment, mais il y en a un autre, c'est l'acidification de l'eau. Donc placer ces plaques de recrutement sur des sources de CO2, comme celles qu'on étudie à Ischia en Italie, ça serait extrêmement intéressant.
Hervé Kem, ça a une question pour vous.
Oui, les conclusions de l'étude sont très ambiguës. Les chercheurs disent qu'à 1 degré Celsius de réchauffement, il y a un très fort changement dans l'écosystème avec une espèce qui domine. En revanche, quand on monte à 2 degrés, eh bien là, il y a une beaucoup plus grande biodiversité. C'est apparemment contradictoire. Comment vous interprétez ces résultats ?
Je ne saurais pas comment les interpréter, mais c'est effectivement très curieux qu'il y a beaucoup plus de variabilité, en fait, à plus 2 degrés qu'à plus 1 degré. On s'attendrait, en fait, au contraire, en général, lorsqu'un facteur de stress est prédominant et est assez intense, toutes les plaques de recrutement devraient converger vers le même résultat. Or là, c'est pas le cas, donc je ne saurais pas comment. Enfin, je suis pas impliqué dans l'étude, donc je saurais pas interpréter ce résultat qui semble contre-intuitif.
Jean-Pierre Gattuso, quand même, ce qui surprend, c'est la rapidité des changements, parce que l'expérience est intéressante justement parce qu'elle est sur une période assez courte de 9 mois et on observe déjà des modifications de l'environnement.
Oui, c'est ça. En fait, évidemment, on part de zéro, hein, puisque ces plaques, lorsqu'elles sont déposées sur le fond de l'eau, elles sont vierges, elles sont complètement libres. Donc, on voit les stades initiaux de la colonisation du fond de la mer, et ça va effectivement très vite. Donc, une autre limitation, en fait, de cette étude, c'est que, comme je disais tout à l'heure, elle n'étudie que le réchauffement, ce qui est déjà très très bien. Il faudrait la combiner avec l'acidification. Mais aussi, le réchauffement ne concerne qu'une petite partie, toute petite partie, hein, encore une fois, 2 mm de colonne d'eau, c'est tout petit. Donc, il serait intéressant de pouvoir aller plus loin, mais c'est évidemment pas facile de réchauffer comme ça. Beaucoup plus difficile, en fait, de réchauffer l'eau de mer que l'air qui peut entourer des arbres.
L'océan, Jean-Pierre Gattuso, a déjà commencé à se réchauffer, si on sort un peu de l'expérience. Quelles sont les modifications qu'on observe déjà ?
Oui, alors l'océan s'est beaucoup réchauffé. En fait, globalement, l'océan stocke 93% de l'excès d'énergie lié à l'augmentation de l'effet de serre. C'est donc le véritable réservoir de chaleur qui absorbe cet effet de serre. Et par exemple, ici, dans la rade de Villefranche, sur la dernière décennie, l'eau de mer s'est réchauffée de 0,7 degrés. Les conséquences sont très multiples. Les plus spectaculaires, évidemment, ce sont des mortalités massives qui se produisent. Vous avez déjà couvert ça sur la Grande Barrière de Corail. Il y a eu 2 épisodes cette année et l'année dernière de mortalité très, très importante de coraux. Ici, en 2003, sur la côte nord-ouest de la Méditerranée, on a eu des phénomène de mortalité massive de gorgones. Donc les mortalités, les déplacements d'espèces, on voit que des espèces s'écartent des pôles de l'équateur pour se diriger vers les pôles à une vitesse moyenne de 70 km par décennie. Hein. Donc les espèces se déplacent de manière à rester à une température qui leur convient, une température qui leur est optimale. Donc ça, c'est les principales manifestations déjà évidentes aujourd'hui du réchauffement de l'océan.
Hervé.
Et si on reste sur l'océan Antarctique, quel effet peut-on observer sur le krill qui représente une biomasse absolument énorme et qui sont donc ces petits animaux marins tout petits?
Alors des collègues australiens ont étudié l'impact de l'acidification sur le krill et en fait ça impacte la reproduction du krill en fait. Le réchauffement, je peux pas vous dire, le krill, parce que je suis pas un expert sur ce domaine-là, le krill on le trouve en Méditerranée aussi, hein, en quantité beaucoup moins abondante, hein, ces crevettes. Et par contre il est très impacté par l'acidification de l'eau qui altère en fait la reproduction. La reproduction est moins efficace lorsque le pH de l'eau diminue.
Une dernière question. Ce choix de 1 et 2 degrés de réchauffement, c'est ce qu'on attend comme réchauffement pour l'océan d'ici 2050-2100?
Alors ça, c'est régionalement très variable. J'ai regardé avant l'émission. Effectivement, c'est ce qu'on attend pour 2100, 2 de plus de degrés dans l'océan austral. Ça varie beaucoup. Hein. Moi, je connais un peu mieux l'océan Arctique. L'océan Arctique, lui, on prévoit qu'il va se réchauffer de 4 à 5 degrés d'ici 2100. Donc, il y a une très grande variabilité régionale de ce réchauffement.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Gattuso. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Merci beaucoup pour ces détails. Et puis, bien sûr, Hervé, on trouve toutes ces infos sur reporter.net. À lundi et Axel, à demain.
À après-demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, si leurs orteils ont disparu un à un pour ne devenir qu'un seul gros sabot, c'est parce que les chevaux sont devenus de plus en plus gros. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le sabot d'un cheval est en réalité un seul gros ongle. En étudiant les ossements de 13 Hyracotherium, considérés comme les premiers membres de la lignée évolutive du cheval et vivant il y a 50 millions d'années, eh bien des chercheurs de Harvard montrent que ces animaux, devenant de plus en plus gros, avaient des orteils latérales de plus en plus petits. Un seul gros orteil était donc la seule solution qui mécaniquement leur permettait de soutenir leur propre poids, une hypothèse confortée par des simulations des contraintes osseuses faites par ordinateur. Schizophrénie et notion du temps, une étude réalisée par des chercheurs français de l'INSERM montre que les personnes souffrant de ce trouble de la personnalité ont aussi des difficultés à percevoir et anticiper le temps qui passe à court terme, comme par exemple se préparer à accélérer avant que le feu passe au vert ou encore ouvrir son sac à la caisse d'un supermarché. Une découverte qui renforce le lien entre troubles cognitifs, la perception du temps et les symptômes cliniques comme la perception du soi. Reste encore donc à découvrir les bases neurologiques de la perception du temps qui ne sont pas connues à l'heure actuelle. Et puis pourquoi les feuilles de bananier sont-elles 100 000 fois plus grandes que les feuilles de la bruyère? Jusqu'ici, les chercheurs pensaient que la taille des feuilles des plantes dans la nature était conditionnée par l'action conjuguée de l'humidité et de la chaleur. Et bien une étude menée sur plus de 7600 spécimens répartis sur 681 sites vient changer la donne. Elle montre que l'équilibre entre humidité et chaleur n'est pas le seul facteur déterminant la taille des feuilles. La nature prend aussi en compte le risque de gel. Plus il y a de risque de gel nocturne, et plus les feuilles ont tendance à rapetisser pour s'en protéger. Une découverte qui pourrait nous permettre de prédire l'évolution des végétaux dans les prochaines décennies. Où sont-ils les extraterrestres? Dossier dans un instant.
I kinda miss my student loan. I've been sitting in the student home, sharing stories now. I sim and sipping sort of wrong. Walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake. Living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way. Like it's the great escape, brothers duping better than me. I'm in a hurry, worried, what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every song the same, and I tell them this cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, yeah. I'm saying ain't nothing changed. Trust cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and your can't do sons. Up in the rubble raising trouble, what you can't do is run. And trust I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying this I should've quit but couldn't resist. And now they sit with a large
luck, a little luck and a wish. But trust they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slip stagger through the puddles in the paint. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they gasp why every f***ing song the f***ing same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Trust cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed, say it ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed.
Et la voix de Loïc Carner à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi? C'est un livre collectif qui sort aux éditions du CNRS et qui pose donc la question de la vie ailleurs, de la place de l'homme aussi ici sur notre planète. Et Roland Lehoucq, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique à Paris-Saclay. Alexandre Delegue, vous êtes professeur d'économie à Lille 1. D'autres auteurs, d'autres scientifiques avec vous dans cet ouvrage, avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent pour en discuter de cette question des vies ailleurs, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alexandre juste un mot encore sur ce rôle de l'économiste au milieu de tous ces scientifiques, physiciens ou astrophysiciens qui sont dans l'ouvrage. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à cette question des extraterrestres en tant qu'économiste ?
Pas aux extraterrestres de manière générale, mais à la question de qu'est-ce qui fait que nous en sommes au point où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que notre civilisation technologique va durer très longtemps? Ça, c'est une question à laquelle je m'intéresse depuis très longtemps, que ce soit dans mes enseignements ou dans mes activités.
D'où l'intérêt, Roland Lehoucq, de réunir plusieurs domaines scientifiques pour confronter les idées, les sciences humaines et puis les sciences dures.
Oui, c'est ça, parce que dans la question de Fermi initiale, où sont les extraterrestres? Il s'est étonné, par un petit raisonnement, il s'est étonné pourquoi ils ne sont pas déjà passés sur Terre, pourquoi on n'a déjà pas vu la trace. Alors, bon, peut-être le raisonnement était-il fautif, mais en même temps, si on imagine qu'il y en a quelque part, une autre espèce intelligente ailleurs qui pourrait voyager dans l'espace, on peut se convaincre assez aisément qu'elle aura dû passer par la Terre.
Ils sont peut-être passés avant l'émergence de l'homme, d'ailleurs.
Alors, il y a plein de réponses possibles à cette question. Ils sont passés avant l'émergence de l'homme, mais une des réponses possibles, c'est qu'ils ne sont en fait jamais passés, parce qu'ils n'ont jamais pu passer, parce qu'ils ont un peu, comme nous, épuisé leurs ressources trop rapidement. Voilà une façon. Il y a tout un tas d'autres réponses, sociologiques, psychologiques, dont on ne connaît rien. Sociologie, psychologie, des extraterrestres, évidemment, nous échappe aussi beaucoup.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est essayer de répondre à cette question, c'est finalement peut-être avoir un biais un peu anthropocentrique, terrocentrique, mais c'est aussi interroger nos civilisations et leur pérennité.
Ouais, et ça, c'est vraiment le cœur du livre, au fond. C'est que derrière cette question, on s'interroge évidemment sur...
On s'interroge deux fois, à la fois sur l'émergence de la vie en général, de la vie sur Terre en particulier, donc ça, c'est des questions plus scientifiques. Il y a les questions d'éventuelles communications, s'ils existaient vraiment, comment pourrait-on faire pour communiquer avec eux, recevoir leurs signaux s'ils en émettent, leur en envoyer en espérant qu'ils les reçoivent, et puis ensuite, une des réponses possibles... ils nous ont pas contactés parce que tout simplement ils n'existent plus. Ils n'existent plus peut-être parce qu'ils se sont épuisés. Et il y aurait tout un tas d'autres réponses, mais celle-ci a été particulièrement intéressante pour éclairer la situation des humains actuellement sur Terre.
Alors Alexandre Delegue, ça c'est une thèse que vous défendez, justement, celle de l'effondrement au fond aussi des civilisations. C'est un thème très intéressant parce que d'abord l'histoire humaine a montré déjà que des civilisations avaient disparu pour des raisons qui ressemblent beaucoup à celles que nous vivons quand même aujourd'hui.
Y a cette question de l'effondrement, mais avant celle-là, il y a la question de l'émergence d'une civilisation technologique. Et c'est vrai qu'on a toujours cette image, vous savez, quand on voit l'homme, on le représente avec le singe et puis la différente évolution qui se termine en homme moderne, parfois avec un ordinateur. Ça donne une impression de linéarité et d'automatisme dans le progrès. Les deux questions que j'ai voulu traiter dans ce livre, c'est celle-là, c'est-à-dire d'abord celle de l'effondrement, est-ce que les extraterrestres ont disparu, mais aussi peut-être que nous sommes vraiment plus exceptionnels que nous ne pourrions le penser. Peut-être qu'en réalité, l'émergence de l'intelligence, d'une civilisation questions technologiques, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus de fruit du hasard qu'on ne pouvait le penser. Et donc, en observant notre propre histoire et notre histoire économique et technologique, l'idée était de se poser ces deux questions-là, notre avenir mais aussi notre passé.
Qui était ce monsieur Fermi, Roland Le Houx ?
Ah, Fermi, c'est un grand physicien italien qui a émigré aux États-Unis et puis...
Enrico Fermi.
Enrico Fermi, qui s'intéressait plutôt à la physique nucléaire, mais c'était aussi un grand esprit qui s'est posé de nombreuses questions. Et ce raisonnement, le raisonnement qu'il a eu, c'est de constater que finalement, même si on est capable d'un voyage interstellaire plutôt lent, pour l'instant, nous ne sommes même pas capables d'un voyage interstellaire tout court. Mais imaginons qu'un jour, l'humanité soit capable de faire un voyage interstellaire, même à des vitesses lamentables.
Interstellaire, ça veut dire quoi d'ailleurs ?
Interstellaire, d'une étoile à une autre.
Soleil. Sortir de notre système solaire.
Franchement, sortir pour atteindre des planètes, éventuellement les occuper autour d'autres étoiles. Alors, l'étoile la plus proche a un peu plus de 4 années-lumière.
Fait combien de kilomètres, ça?
Ça fait beaucoup. Ça fait 40 000, plus de 40 000 milliards de kilomètres.
C'est ça.
Donc, à la vitesse de la lumière, 4 ans. À la vitesse actuelle des meilleures sondes ou des objets les plus rapides que l'humain sait faire, c'est plutôt 80 000 ans. Donc bon, on en est encore loin. Mais imaginons que l'on sache faire ça, même à une vitesse un peu ridicule, du genre un millième de la vitesse de la lumière, ou quelques pourcents, ou du pourcent. Ça veut dire qu'il faut des siècles pour atteindre l'étoile la plus proche. Imaginons qu'on sache faire ça, ce qui est non trivial.
Ouais. On a un petit problème technique.
On se dit... C'est de la technique qu'on saurait maîtriser, mais on ne sait pas le faire. Le problème est très difficile, mais pas impensable. Il est très difficile au point qu'on ne sache pas le faire en pratique, mais il n'est pas impensable. Il ne requiert pas une technologie à inventer ou la physique à inventer. Donc imaginons qu'on sache faire ça, des siècles pour l'étoile la plus proche, après croiser et multiplier pendant 1000 ans, et puis au bout de 1000 ans, on recommence. Quelques siècles pour l'étoile suivante, croiser, multiplier pendant 1000 ans, et on recommence. Vous voyez, la lenteur du processus, à lenteur apparente, on se rend compte, un petit calcul montre, qu'en quelques dizaines de millions d'années, peut-être 100 millions d'années, ce qui est une longue période, l'humanité a essaimé sur l'essentiel des planètes habitables de la Voie lactée, de notre galaxie, qui compte 150 milliards d'étoiles. Ouais. Donc un processus qui est extrêmement lent, mais 100 millions d'années, c'est ridicule au regard de l'âge de notre galaxie, qui est plutôt de l'ordre de 10 milliards d'années. Ce qui signifie que si une civilisation capable de faire des voyages interstellaires a existé un jour dans notre galaxie, alors on devrait probablement en voir des traces un peu partout. C'était là, d'où l'étonnement de Fermi, alors ils sont où ? Oui. Alors une réponse de l'époque, c'était ce sont les Hongrois, parce qu'il y avait beaucoup de physiciens hongrois, physiciens et mathématiciens hongrois de très haut niveau, qui ont émigré aux États-Unis suite à la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient des types assez remarquables en physique et en mathématiques, au point que précisément ils semblaient un peu extraterrestres par leurs compétences intellectuelles. Mmh. Bon, c'est une réponse en forme de boutade, mais voilà, la question était posée. Ça semble entre guillemets assez facile de se répandre dans la galaxie, à condition d'en avoir même des moyens assez limités, à condition. Vous voyez, il y a des conditions. Donc si l'hypothèse de départ n'est pas vérifiée, votre conclusion, elle non plus.
Extrait du film Interstellar, justement.
Quelque chose vous a envoyé ici. Ce sont eux qui vous ont choisi.
Eux ?
C'est-à-dire ? C'est qui, eux ?
Nous avons commencé à détecter ces anomalies gravitationnelles il y a presque 50 ans. Principalement un léger décalage de nos instruments dans la haute atmosphère. Mais de toutes ces anomalies... La plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps.
Est-ce que c'est un trou de ver ?
Apparu il y a 48 ans.
Et où est-ce qu'il mène ?
Dans une autre galaxie.
Un trou de ver, ça n'a rien de spontané.
Quelqu'un l'a placé là.
Eux ?
Et quel qu'il soit, on dirait bien qu'il veille sur nous. Ce trou de ver nous permet de voguer vers d'autres étoiles.
Roland Le Houx, extrait d'Interstellar. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation au fond des observations. C'est ce qu'on a comme signal, ça vient d'où ? Est-ce que ce sont vraiment des signaux extraterrestres ? C'est toute la difficulté d'ailleurs. Parce que des signaux, on en a tout le temps. Hein, dans la presse, dans les publications, il y en a encore eu un il y a quelques jours. Des signaux radio inexpliqués dans l'espace, en avril ou en mai, la même chose. 15 signaux radio.
Des choses curieuses qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas immédiatement. Et puis parfois, il faut un peu plus de temps, parfois beaucoup de temps. Il y en a beaucoup en science, évidemment. Là, dans le cas d'Interstellar, il voit quelque chose qui paraît non naturel, et le fait que ça ait l'air non naturel, ce trou de ver, comme il le nomme, eh bien, ils imaginent qu'il y a quelqu'un qui l'a mis en place à cet endroit. C'est sûr, si vous vous baladez à la surface de Mars et qu'un des rovers trouve un simple stylo bic, enfin, ou quelque chose qui ressemble à un stylo bic, même un objet quelconque qui a l'air manifestement artificiel, ça ouvre des abîmes de réflexion.
Ah ben là, c'est une révolution, même.
Ah ben là, c'est une révolution. Marche, hein. Le simple fait de trouver quelque chose qui n'ait pas l'air d'être terrestre, humain, on ne sait pas ce que c'est, mais il a l'air non naturel, et donc ça pose la question de sa production, qui l'a produit, dans quel but, à quoi ça servait, comment ils ont fait ça, où ils étaient, enfin, c'est parti. Oui. Et donc, trouver l'artefact, trouver le... Pensez au monolithe noir de 2001. Bon, là, évidemment, c'est assez spectaculaire. Ce monolithe qui est posé là, vous trouvez un bazar comme ça sur la Lune, un objet parfaitement sombre, parallélépipédique, avec des dimensions tout à fait pas choisies au hasard. Vous savez pas trop à quoi ça sert, mais vous savez quelqu'un l'a mis là, parce que ça vous paraît extraordinaire, extraterrestre pour le coup. Bon, alors, chez les humains, on peut aussi... Il y a des fois aussi, on trouve des choses. Quand on les trouve sur Terre... On se dit, ça doit être des humains qui les ont fait, des humains dont on n'a pas la trace, une civilisation perdue, quelque chose sur lequel nous manque de l'information.
Mais ailleurs, ça pose
on n'a rien trouvé. Et là, pour le coup, ça poserait des tas de questions, bien sûr.
Alexandre Delegue, alors, sur tous ces questionnements qui viennent à l'esprit de l'humain, hein, évidemment, face à tous ces phénomènes.
Oui, effectivement, ça pose énormément de questions, mais ça pose aussi directement, on le voit, la question de nos propres capacités. Quelles sont, d'où viennent nos capacités technologiques? D'où venons-nous nous-mêmes? Peut-être même que nous-mêmes, d'ailleurs, sommes les extraterrestres. Hein. Il y a eu un certain nombre d'hypothèses comme celle-là, c'est la fameuse hypothèse de la pense permis. Mm-hmm. Avant tout, il y a quand même aussi la question de la capacité technologique. Qu'est-ce que l'on sait faire? Comment est-ce qu'on peut du coup utiliser ce que l'on sait faire pour communiquer avec l'extérieur? Et est-ce qu'il n'y a pas un obstacle? Et cet obstacle viendrait de ce que on n'a pas le temps d'utiliser nos technologies pour se développer dans l'univers. Et l'absence de signal dans ce cas-là pourrait venir de ce que, en réalité, il existe une limite dure technique. Quelque part, qu'on n'a pas encore rencontré, mais qu'on pourrait éventuellement rencontrer un jour.
Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi, dossier de la tête au carré, avec vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et si vous en avez croisé des extraterrestres, vite, appelez-nous pour nous le dire. Malik Djoudi, sous garantie.
La tête au carré. sur France Inter.
Un astrophysicien Roland Lehoucq et un économiste Alexandre Delegue, mes invités pour parler des extraterrestres à l'occasion de la sortie de ce livre « Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi ?» Fermi qui a inspiré plein de gens, Roland Lehoucq, justement, dans ses recherches de vie ailleurs.
Alors, Fermi lui-même n'a pas participé aux recherches de vie ailleurs, mais cette question a été un peu sous la forme d'une boutade, a finalement été reprise et a été suffisamment inspirante pour que d'autres gens s'en emparent et réfléchissent à la question et apportent des réponses, parce qu'il y a évidemment une quantité impressionnante de réponses à la question, mais qui sont toutes très terro-centrées, si je veux dire, humano-centrées. Mais voilà, ça a été, la question a été inspirante en ce sens-là. Après, Fermi, lui, s'intéressait pas vraiment à la question des extraterrestres, c'était plutôt une boutade, mais qui a fait florès, finalement.
Voilà, prix Nobel de physique, quand même, oui, au passage. Oui. Frank Drake, autre personnage intéressant, justement, dans cette saga de la recherche des vies ailleurs.
Hein. Oui, Frank Drake, très, un personnage très important. C'est un radioastronome, un jeune radioastronome, et qui décide de tenter d'écouter l'univers en ondes radio pour essayer d'y détecter un éventuel signal d'une intelligence extraterrestre. Alors on voit déjà beaucoup de biais. Il écoute en radio. Il écoute dans une longueur d'onde, dans une fréquence particulière, et il écoute donc quelqu'un qui pourrait émettre donc une intelligence qui aurait déjà les moyens techniques d'émettre en ondes radio, éventuellement notre destination, éventuellement arrosant l'univers, mais nous profitant des fuites, entre guillemets.
C'est ça,
donc
le problème,
c'est un vrai pari, c'est un énorme pari intellectuel. Pour y faire cette tentative, elle est vraiment fondatrice de tout ce qu'on appelle les programmes SETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence, donc les recherches d'intelligence extraterrestre. Et donc voilà, c'est en ce sens, Frank Drake est fondateur. Et puis là, avec l'enthousiasme de la jeunesse, sans aucun doute, et puis son impétuosité, il lance un programme qui finalement n'a duré que quelques centaines d'heures, mais a été fondateur pour toutes ces questions-là.
Et Alexandre Delegue, il crée une équation, hein, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le livre. Hein.
Non, l'équation de Drake, c'est pas une équation au sens physique du terme, du genre du style E égale MC2 par exemple. Ouais. C'est par contre, qu'est-ce que c'est que son équation ? C'est, on va dire, combien est-ce qu'il pourrait y avoir de civilisations intelligentes susceptibles de nous parler. Alors d'abord, dans la galaxie, il y a un certain nombre de planètes.
Ouais.
Dans ces planètes, il y en a une certaine proportion qui contiennent de la vie. Ensuite, dans celles qui contiennent de la vie, il y en a qui vont devenir des vies intelligentes, puis des intelligences technologiques, et puis elles vont durer un certain temps. Donc il pose un certain nombre de paramètres qui sont l'objet de beaucoup d'interrogations, qui lui permettent de dire, il doit y avoir de la vie quelque part. Ce qui est intéressant, c'est que même à l'époque, déjà des biologistes contestent un certain nombre de ces paramètres. Ouais. En particulier, l'idée que dès lors que la vie apparaît, ils partaient du principe que dès que la vie apparaît, l'intelligence suivrait directement. Or, Ernst May, un biologiste à l'époque, lui avait répondu, mais attendez, il y a déjà eu 50 millions, en gros, on estime qu'il y a eu 50 millions d'espèces sur Terre, depuis l'existence de la vie sur Terre, et le nombre d'intelligences dedans, il y en a une. Donc, c'est pas du tout certain qu'ailleurs l'intelligence apparaisse. Ouais.
Enfin, et les éthologues seraient pas tout à fait d'accord avec vous, pour dire qu'il y a qu'une intelligence humaine aujourd'hui. Ah bon, en tout cas, les partager un petit peu avec d'autres espèces.
Voilà, disons qu'en tout cas, la proportion est très faible et très différente de ce que Drake supposait.
Ouais. Mais c'est intéressant ce calcul quand même, parce que c'est vrai, quand on réfléchit à cette question, est-ce qu'il y a du monde ailleurs dans l'univers? Vu l'étendue de l'univers, vu le nombre de centaines de milliards d'étoiles, de galaxies, Roland Lehoucq, ce serait quand même bien incroyable si un jour ne se manifestait pas, en tout cas, une autre forme de vie ailleurs, même sans qu'on le sache d'ailleurs. Mais
oui, sans qu'on le sache peut-être, mais de toute façon, on ne peut malheureusement pas le chiffrer. Avant de faire des statistiques et des probabilités, il faut encore avoir les moyens de moins estimer les probabilités, l'estimer le nombre de planètes, par exemple, dans notre galaxie. Depuis que l'on observe avec une régularité d'essuie-glace les exoplanètes autour d'autres étoiles, on sait maintenant, on a une idée bien meilleure de ces statistiques-là, même si on n'en connaît que 3000. 150 milliards d'étoiles dans une galaxie, il y a probablement au moins autant de milliards, et probablement plus de milliards que ça, de planètes. Mais on peut affiner les statistiques. Par exemple, combien y a-t-il de planètes? Après, là-dedans, il y a la fraction des planètes susceptibles d'accueillir la vie.
Bon,
ça peut être très compliqué, parce que la vie, on la connaît surtout sur Terre. Donc ensuite, il y a des tas de subtilités. Bon, alors peut-être on aura des idées un peu meilleures sur ce nombre-là, cette fraction-là. Mais après, que cette vie évolue comme ci ou comme ça, comme une intelligence, encore faut-il définir ce qu'est une intelligence. Et là, effectivement, l'éthologie nous apprend des choses qui nous ravalent un peu, qui nous font baisser un peu notre caquet, nous, en tant qu'humains, évidemment. Et puis, après, il y a aboutir à une science technologique. Bref, il y a énormément d'inconnus. Cette équation, en fait, de Drake, elle ne fait qu'essayer de recenser le nombre d'inconnus, les facteurs qui paraissent cruciaux. Drake en identifie 7, mais peut-être y en a-t-il d'autres. Et essayer de chiffrer ces facteurs. Mais en fait, la réponse, elle est entre 1 il y a au moins nous, au moins les humains, mmh. et peut-être des milliers, des centaines de milliers, des millions dans notre galaxie. Avec en plus la possibilité qu'ils soient suffisamment isolés les uns des autres spatialement, trop lointains, ou temporellement à des époques très différentes pour que les communications ne puissent se produire.
Mmh. Alexandre Delegue, qu'est-ce qu'on doit en tirer finalement de cette équation aujourd'hui de Drake ? Un grand vertige surtout ?
Un grand vertige, mais aussi quand même un certain nombre de questions sur notre exceptionnalité, parce qu'après tout, si on prend un certain nombre de paramètres, on se rend compte qu'on est le résultat finalement de toute une série de hasards, d'accidents, on peut les baptiser comme on le veut. Mmh. Le nombre de planètes susceptibles d'accueillir des technologies, par exemple, il y a peut-être des planètes qui contiennent de la vie, mais sous l'eau. Et est-ce qu'il est possible d'inventer la technologie sans inventer le feu ? Et sous l'eau, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà le type de question, mais surtout déjà, ça pose une première question à ce niveau-là, qui est de dire, nous, on a franchi tous ces obstacles, parce que beaucoup de gens considèrent maintenant l'équation de Drake comme la description d'un certain nombre de filtres ouais. qui limitent la possibilité d'apparition. Et donc, si on a passé autant de filtres, finalement, d'un certain point de vue, d'ores et déjà, ça nous met dans une sorte de position de responsabilité. Mmh. On a réussi, on est l'aboutissement d'un processus de filtrage extrêmement brutal. Et c'est important,
Mais est-ce que ça ne montre pas aussi les limites, au fond, de l'imagination de l'homme ? Parce que peut-être que des formes de vie existent auxquelles personne n'a pensé pour l'instant. Et pourquoi est-ce que la vie n'apparaîtrait pas sous des formes qui nous paraissent complètement délirantes aujourd'hui ?
Il y a eu récemment un papier qui est sorti cet été qui était assez drôle sur ce sujet. Enfin, à la fois drôle et assez sérieux. C'est un groupe de physiciens qui a dit la solution au paradoxe de Fermi, c'est la suivante. En fait, il existe des civilisations intelligentes, mais pour utiliser l'information de la manière la plus efficace, elles ont besoin d'un univers beaucoup plus froid. Donc elles attendent que l'univers refroidisse d'ici quelques dizaines de milliards d'années. Mmh. Et à ce moment-là, elles pourront atteindre leur niveau technologique optimal.
Bon.
Donc vous voyez que...
c'est contre-intuitif.
En termes d'imagination, on peut aller très loin.
C'est ça, exactement. Allez, extrait du film Premier Contact pour poursuivre notre discussion sur les vies extraterrestres.
Voici quelques-unes des choses que nous ne savons pas à propos des heptapodes. Du grec hepta, sept, et pod, pied. Sept pieds, heptapodes. Qui sont-ils ? Comment communiquent-ils ? La première percée a été de découvrir qu'il n'y a aucune corrélation entre les sons qu'émettent les heptapodes et ceux qu'écrivent les heptapodes. Contrairement à toutes les langues humaines écrites, leur écriture est sémasiographique. Elle ne s'appuie pas sur une représentation de la parole, mais sur un système de symboles porteurs de sens. Contrairement à la parole, un logogramme ne s'inscrit pas dans le temps. Imaginez que vous vouliez écrire une phrase en vous servant de vos deux mains, écrivant chacune de leur côté. Vous devriez en connaître chaque mot à l'avance et pouvoir déterminer dès le départ l'espace nécessaire à l'écriture de ces mots. Un heptapode peut écrire une phrase complexe en 2 secondes, sans effort. Il nous a fallu 1 mois pour formuler une réponse toute simple.
Voilà, et Premier Contact, c'est aussi un petit peu l'histoire d'un déchiffrage d'un langage totalement inconnu pour l'humain, ceux de ces créatures, et justement, c'est toute la difficulté. Comment est-ce qu'on arrive aussi à se comprendre ?
Bien sûr, c'est-à-dire que là encore, ils sont face aux heptapodes, qui d'une certaine façon facilite beaucoup le travail.
C'est ça, ils sont là. Hein.
Parce qu'on peut interagir avec eux, comprendre oui, non, on peut comprendre des mots élémentaires, et puis de fil en aiguille, essayer de structurer, de comprendre comment fonctionne leur langage et de le comparer au nôtre, ou de leur apprendre le nôtre. Il faut imaginer maintenant que si vous êtes en conversation téléphonique, entre guillemets, avec des éventuels extraterrestres à l'autre bout de la galaxie, le moindre temps de trajet pour envoyer votre message se chiffre en années. Et donc, du coup, la question n'est là, vous pouvez pas interagir en temps réel, ce qui facilite, ce qui est très difficile déjà, on le voit dans le film, ça, deux films de ce point de vue-là montrent extrêmement bien la difficulté qu'il y aurait à comprendre depuis le point zéro une langue pour laquelle, une langue parlée, une langue écrite en l'occurrence, pour laquelle on a aucun espèce d'élément de comparaison sur Terre, mais si en plus les gens avec qui vous discutez sont à l'autre bout de la galaxie, même à quelques années-lumière de distance, tout de suite très compliqué. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce que vous envoyez ? Qu'est-ce que peuvent envoyer les extraterrestres comme information ? Comment, vous, comme humain, vous détectez un signal qui fait bip 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 ? Comment vous savez que c'est un signal artificiel plutôt qu'un signal naturel ? Ce signal artificiel, est-ce qu'il résulte de machines qui continuent de tourner mais les créateurs sont disparus ? Ou il y a une intelligence qui est derrière encore là ? Ça pose des questions compliquées, ouais. Bien sûr.
Alexandre Delegue, quel casse-tête quand même. Hein.
Oui, d'ailleurs, le film lui-même et la nouvelle de Ted Chiang qui en est à l'origine montrent bien une difficulté supplémentaire, bon, sans vouloir raconter toute l'histoire du film, mais que le rapport, en l'occurrence, des extraterrestres au temps n'est pas le même que le nôtre. C'est-à-dire que nous vivons dans un temps linéaire, dans lequel on avance, et il y a le passé, le futur, et on est dans le présent. C'est mais ça. Les extraterrestres, eux, sont dans une autre conception du temps, ce qui complique évidemment à l'infini la capacité de communiquer.
Pourquoi les extraterrestres, demande Zoé sur Facebook, ne pourraient-ils pas eux aussi avoir des problèmes techniques ou financiers pour venir nous rendre visite? Bah, c'est exactement ça, hein,
oui,
la question.
Hein. Exactement. Ils peut-être qu'ils vont venir me poser la question de conseil boursier.
C'est ça.
Comme mes étudiants.
Ouais, mais c'est ce que vous dites, hein, très sérieusement.
Absolument. Bah, bien sûr. À partir du moment
c'est
où il y a une technologie.
C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas encore entré en contact avec eux.
Et à partir du moment où il y a une technologie, il y a une économie qui va avec. Il y a une capacité à utiliser des ressources et à les utiliser pour produire des choses. Donc, c'est effectivement une question économique.
Roland Lehoucq, qu'est-ce qu'on entend là ?
Ah ben, c'est les fameuses notes de la rencontre du troisième type.
Absolument.
Évidemment.
Alors, sans parler de signaux tout à l'heure, c'en est un.
Ben voilà, c'est une autre forme de communication, cette fois-ci musicale, lumineuse aussi dans le film. Il y a des signaux lumineux qui sont émis en même temps que les sons. Et du coup, effectivement, une intelligence extraterrestre pourrait résulter d'une évolution qui l'a fait communiquer de façon rédhibitoirement différente du son que nous utilisons, nous, sur Terre. Ça pourrait tout à fait autre chose. Et du coup, la façon d'exprimer un message vers eux ou de recevoir un de leurs messages et donc de le comprendre, ça serait tout à fait différent, bien sûr.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous des auditeurs.
Tu veux chanter ?
Oui, on peut commencer. Mon Dieu, tu es
une fille.
Quand je t'ai connu,
tu citais Boris Vian, Camus.
Camus,
le nez dans tes songbooks.
Et toi qui te prenais pour Zouk. Ensuite,
on a vieilli. Tu t'es durci.
Chez vous, Alfie. Je sais c'est quel coup brutal. Mais la nature est animale. Qui le démon consent à la chair, comme c'est couvert en fer dans les stations chères. Et plus je les caresse, plus je me dis que
tu es comme beaucoup de messieurs. Neil,
oui,
t'en souvient-il? Tu disais savoir faire la cour. Mais moi,
crois toujours toi.
Tu m'enivrais de mots d'amour.
Plus maintenant, car j'ai cédé au style de vie que je laissais
à d'autres hommes moins chic que toi.
Ce genre de type qui suscite chez les filles des émois. Et pourtant, qui ne dit mon consent à la chair, comme c'est couvert en fer dans les stations chères. Et plus
tu les caresses, plus tu te dis.
Je suis comme beaucoup de messieurs. Je suis comme beaucoup de messieurs.
Et c'est Valérie Lemercier avec The Divine Comedy.
La tête au carré sur France Inter.
voilà, où sont-ils donc les extraterrestres et le paradoxe de Fermi au CNRS édition avec plusieurs disciplines donc qui se sont rencontrées, l'astrophysique, la physique, mais également l'économie avec ces questions des auditeurs qui arrivent. Mehdi sur Twitter demande ceci, la taille de l'univers, est-ce que ça n'est déjà pas un obstacle en soi au contact des extraterrestres? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Roland Lehoucq.
Oui, alors l'univers est grand, mais déjà notre galaxie c'est déjà assez grand, 100 000 années-lumière de diamètre, donc la lumière qui irait d'un bout à l'autre 100 000 ans pour la traverser. Bien sûr, les distances qui séparent les étoiles sont si gigantesques, même à la vitesse de la lumière, la durée de propagation du message, ce sont des années. Donc un échange radio, si j'ose dire, ou téléphonique, pour être plus pragmatique, avec des extraterrestres sera extrêmement long.
Françoise à Bordeaux, pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a des problèmes à résoudre sur Terre, Alexandre Delegue?
C'est une bonne question, parce que justement, se poser la question sous l'angle des extraterrestres, ça nous permet de créer une forme de distanciation. On est un petit peu dans notre vie comme les poissons dans l'eau, on n'est pas conscient de l'existence de l'eau. Et on voit pas l'environnement qui nous entoure. Et finalement, se distancier comme ça, ça nous permet de nous observer nous-mêmes, en prenant l'idée des extraterrestres comme une forme d'autre société, en se posant la question des problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est une manière de se poser la question des problèmes que nous pourrions rencontrer. Mmh. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce questionnement autour des extraterrestres. C'est que c'est de la même manière que chez Wells, la guerre des mondes était une manière de parler de la colonisation, en parlant des extraterrestres et des martiens. Pour nous, se poser la question de pourquoi il n'y a pas d'autres civilisations dans l'univers, c'est se poser la question, et nous, on en a pour combien de temps? Quels sont nos problèmes, les problèmes de nos sociétés?
Et pourquoi la question des technologies est centrale, justement, au cœur de cette réflexion, alors?
Parce que atteindre un certain, enfin, pour pouvoir communiquer ou se déplacer dans l'univers, il faut avoir atteint une sorte de niveau technologique minimal. Mmh. Et or, nous, ce que l'on constate, c'est qu'on a atteint depuis assez peu de temps, finalement, ce niveau technologique, ce qui pose deux questions. Est-ce qu'il était si facile que ça de l'atteindre? Et c'était pas du tout certain, ça c'est le premier point. Mais deuxièmement, combien de temps est-ce qu'on va pouvoir préserver ce niveau technologique? Parce que on voit qu'il est fondé sur un phénomène qui est un phénomène, pour le coup, économique, qui est un phénomène de production, on produit. Et on produit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la croissance économique. Mmh. Or, la croissance économique, à partir du moment où on transforme des choses, ça pose la question, combien de temps on va pouvoir faire ça? Est-ce qu'on consomme de plus en plus d'énergie?
Et qui en bénéficie aujourd'hui aussi, hein?
Aussi, cette question de qui en bénéficie, tout à fait. Ça, c'est les aspects, enfin, des questions distributives. On pourrait noter d'ailleurs que cette question de la croissance est tellement mal connue qu'on sait que nous, on est des pays riches, mais on sait pas comment transformer les pays pauvres en pays riches. Mm-hmm. C'est pas si facile que ça à faire. Ce qui veut bien dire que même sur ce domaine-là, rien que sur nous, on se pose encore pas mal de questions.
Donc, il y a toute une réflexion liée à la croissance et à la décroissance, hein, parce qu'il y a ça aussi qui est sous-jacent. Qui découle directement aussi de cette interrogation extraterrestre.
Oui, et une manière de voir cela, c'est de se dire que, et là on revient à cette question des technologies, c'est qu'on a, nous, l'exemple de civilisations, de sociétés qui ont progressé à un moment donné.
Ah, mais vous répondez exactement à la question de Caroline sur Facebook. Est-ce qu'il y a des exemples de sociétés terrestres technologiquement avancées et qui se sont effondrées?
Absolument, on a énormément d'exemples, et ces exemples-là nous permettent d'illustrer éventuellement ce qui a pu arriver à d'éventuelles sociétés extraterrestres qui se sont effondrées, et ce qui pourrait d'ailleurs arriver à notre civilisation technologique. Techniquement avancé. Ouais.
Vous pensez à quel type de civilisation, s'il fallait donner quelques exemples?
Alors, on a l'exemple classique de l'Empire romain, dont on sait très bien que il n'y a pas eu vraiment de chute de l'Empire romain, de véritable effondrement, ça a été un phénomène lent. Il n'empêche que quelques centaines d'années après l'hégémonie de l'Empire romain, les gens vivaient en utilisant des routes, en ne sachant pas comment elles avaient été construites, en étant absolument incapables de reproduire les techniques qui existaient auparavant. Mmh. D'autres effondrements, un effondrement célèbre est celui de l'île de Pâques, qui a atteint une population de 10 000 habitants et qui, en une centaine d'années, est descendu à 3 000 habitants, et qui ne savait plus refaire les fameuses grandes statues de pierre qui y sont toujours. Mais il y a aussi toute une série de civilisations d'Amérique centrale, les Mayas, les Aztèques, les Incas, qui sont également effondrés. On a des dans l'histoire, on a des tas d'exemples de civilisations qui se sont effondrées, et on a, les historiens maintenant, ont pu analyser quels sont les facteurs communs qui permettent de comprendre ces effondrements.
Il faut lire ce livre de Jared Diamond, Effondrement, par exemple, qui reprend justement tous les critères qui participent à la fin d'une civilisation pourtant fertile et riche. Roland Lehoucq.
Oui, du coup, cette question-là de l'effondrement est importante, parce que qu'il y ait une autre intelligence en dehors de la Terre, ou qu'il n'y en ait pas, les deux situations sont également vertigineuses. Mais C'est-à-dire, autrement dit, si nous sommes seuls dans l'univers, en ce moment en tout cas, être intelligent, c'est quand même, ça touche. Et puis s'il y en a d'autres, ça pose aussi des questions. Mais si on est seul, en tout cas, comprenant la difficulté peut-être qu'émerge une autre civilisation, ça nous donne aussi une grande responsabilité en tant qu'espèce humaine de préserver l'îlot dans lequel on est. D'une certaine façon, la Terre, en prenant le point de vue de Sirius dont on parlait tout à l'heure, finalement, en regardant tout ça de loin, on réalise à quel point la Terre est fragile de plein de façons, à quel point elle est limitée, à quel point l'humanité commence à en toucher les bords. Et donc, réaliser à la fois la fragilité, la finitude de la Terre, et en même temps, réalisant peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être que nous serions seuls, en tout cas au moins au moment où nous parlons, ça nous donne une grande responsabilité. Comme disait Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. Nous avons un grand pouvoir sur la matière, la matière inerte, la matière vivante, et nous avons de grandes responsabilités si nous voulons préserver peut-être un îlot d'intelligence. Peut-être y en a-t-il eu d'autres avant nous, peut-être y en aura-t-il d'autres après nous, peut-être y en a-t-il d'autres en même temps que nous, mais au moins dans ce quartier d'univers, pour ce qu'on en sait, pas très loin autour de nous, une centaine d'années-lumière autour de nous, c'est nous quand même, semble-t-il.
Ouais. Donc, mais quand même, il faut arrêter de faire de l'anthropocentrisme, vous croyez pas? Parce qu'on a eu tellement de blessures narcissiques tout au long de l'histoire, hein, quand même, sur la place de la Terre dans l'univers, dans le système solaire, sur notre place aussi, sur l'arbre de l'évolution. Ce serait quand même bien incroyable si on était les seuls aujourd'hui sur Terre, non, quand même?
Dans l'univers. Non, ce serait incroyable, mais de toute façon, cette question-là de... Ils sont peut-être là, mais on n'en sait rien. Ça vous laisse dans une situation de doute qui fait que vous devez quand même faire attention à vous. C'est-à-dire, peut-être vous avez 50 millions d'euros sur un compte en banque en Suisse, Mathieu Vidard, mais faut en avoir la preuve directe. Vous préférez dépenser raisonnablement votre salaire.
Alexandre Delegue.
Cette idée de la préservation, justement, étudier les effondrements en se posant la question de quand sont les règles générales, ça permet de comprendre à la fois pourquoi une société s'effondre, mais aussi quels sont les facteurs dont il faut se méfier, et ceux dont parfois les choses qu'on regarde parce qu'on a le nez dans le guidon, qui ne sont pas forcément les véritables sources
de problèmes. Absolument. Alors, est-ce qu'on serait pas au bord de l'effondrement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire, justement, par rapport à ce regard et ce recul-là que vous avez sur les choses?
Alors, si on s'était posé la question dans les années 60, l'idée de l'effondrement à l'époque, c'était la guerre nucléaire.
Ouais.
Il y a plein d'auteurs, en particulier quelqu'un comme Hubert Reeves, a écrit un livre de vulgarisation à l'époque en disant ce qui s'est passé, c'est que les extraterrestres ont inventé l'arme nucléaire, la capacité de se détruire, et ils se sont entretués. J'allais vous dire, maintenant, on n'y pense plus trop, mais l'actualité, ces temps-ci, voilà. Mais aujourd'hui, quand on se pose la question sous cet angle-là, on se pose évidemment la question des grands risques planétaires et des questions environnementales.
On parlait du réchauffement climatique
tout à l'heure. Le réchauffement climatique, évidemment, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une grande question. La question de l'épuisement des ressources naturelles. Toutes ces questions-là. Alors, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que, en réalité, quand on regarde l'histoire des civilisations qui se sont effondrées, ça n'a jamais été à lui tout seul un facteur de ce type-là qui a causé les effondrements. Mais ça a été la combinaison d'un facteur de ce type-là avec l'incapacité à traiter ces problèmes.
Vous montrez bien une cristallisation, en fait, des événements
Effondrement. Exactement. La métaphore, c'est un peu celle d'un avion dans lequel on peut enlever un rivet ou deux de temps en temps, il va continuer à voler. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on enlève un rivet supplémentaire et là, hop, c'est la désintégration. Ça, c'est un premier risque. Un deuxième risque, c'est que fondamentalement, une civilisation apparaît quand les gens essayent de résoudre des problèmes de manière de plus en plus sophistiquée. Cette sophistication, elle génère à son tour de nouveaux problèmes. Et on peut aller très loin dans ce jeu-là en résolvant sans arrêt les anciens problèmes. Mais l'histoire nous montre qu'il y a historiquement, tous les effondrements se sont faits parce qu'il y a un moment donné où on n'arrivait plus à résoudre les problèmes de ce type.
Roland Louk, un dernier message de Lomi. Est-ce que nous ne sommes pas non seulement perdus dans l'espace, milliards d'étoiles par galaxie et milliards de galaxies, mais aussi dans le temps lorsqu'on compare la durée propre d'une civilisation et celle de l'univers, environ 13,8 milliards d'années.
Parmi les nombreuses réponses qu'on peut apporter par jeu ou pour son intérêt intellectuel au paradoxe de Fermi, il y a l'idée de la bulle temporelle, c'est-à-dire que les civilisations naissent et disparaissent. L'humanité est là depuis quelques millions d'années, disons. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais mettons autant. Ça fera 10 ou 20 millions d'années. Voilà, ça donne la fenêtre temporelle
de
discussion.
Hein,
c'est un tout petit passage.
Dans cette histoire. Hein.
L'univers a 13,8 milliards d'années. L'Under Galaxy a un bon 10 milliards d'années. Donc des civilisations pourraient apparaître. On pourrait les imaginer, la galaxie, comme un flash ici, un flash là, mais qui s'ignore parce qu'ils sont très distants, et ils s'ignorent aussi parce qu'ils se produisent même pas en même temps, ces flashs. Donc, ces flashs d'intelligence, entre guillemets, ou même de vie, simplement. Et donc, oui, ça pourrait être tout à fait un vide qui nous sépare, un vide temporel, enfin, un gouffre temporel qui nous sépare, absolument.
Voilà. Et en attendant, ben, vous remettez en lumière ce paradoxe de Fermi. C'est amusant, hein, aujourd'hui, en 2017, de pouvoir en rediscuter. Et le prétexte, vous le disiez, pour nous interroger sur notre société et ses faiblesses, hein, qui sont nombreuses dans une époque assez critique. Où sont-ils, les extraterrestres, donc, et le paradoxe de Fermi, avec vos confrères Mathieu Agelot, Gabriel Chardin et Jean Duprat. C'est aux éditions du CNRS. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Serge Viguier et Nicolas Delmas qui étaient à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et puis demain, dossier consacré à la police scientifique et ses méthodes.